Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir chaque fois que. Oui. C'est un plaisir de me trouver ici au nom de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie d'être un endroit où tu dis, je vais parler au nom de Dieu. Dans la vie, nous pouvons être des messagers, des personnes. Mais quand nous sommes des messagers de Dieu, ça c'est un privilège. C'est un privilège que nous avons et je rends grâce à Dieu qui me donne cette opportunité de le faire. Pendant très longtemps dans ma vie, je ne comptais pas faire ce travail parce que je faisais le travail que je faisais, je disais que ça n'avait pas de rapport. Mais j'ai fini par voir que je me trompais et que pour servir Dieu, c'est la fonction la plus importante qu'on puisse avoir dans la vie. Et je suis très content de le faire. Comme le pasteur vient de le dire, je viens de rentrer des vacances. J'ai été dans un pays que je connais bien, dans lequel j'ai vécu pendant très longtemps, la Belgique. Et je suis content d'y avoir été après ce temps d'absence. Et Dieu m'a été de mon côté parce que mon voyage s'est bien passé, quand j'allais retour, et mon séjour, ça s'est bien passé. Et j'ai même participé activement dans les activités d'une église qui était la mienne quand j'étais là. Et tout le monde était content. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et aujourd'hui, dans la réflexion que nous allons avoir, et nous allons voir, oui, aujourd'hui, en fait, je voudrais que vous rappeliez ce que nous avons fait du début de l'année jusqu'à maintenant. Vous vous rappelez que depuis le début de l'année, notre Église s'était fixé deux objectifs. La première, c'était de. Depuis le début de l'année, c'est un petit rappel que je vous fais. Notre Église s'était décidée de prendre deux objectifs dans les différents thèmes de prédication que nous allions faire, dans les prières que nous allions faire, de voir comment est-ce que nous pouvons restaurer notre relation avec Dieu et comment est-ce que nous allons restaurer notre relation avec les autres. Ceci, nous le faisions pourquoi? C'est parce que aussi nous avions vu, rappelez-vous, quand nous avons fait aussi une prédication sur le thème de revenir à notre premier amour. Nous avions vu pendant ce temps les différentes lettres que Jean écrivait aux églises d'Asie, où le focus c'était de voir où Jésus parlait à travers Jean, l'apôtre, de voir que Jésus lui-même n'était pas content de la situation des gens, des églises, et que les gens s'étaient dispersés, s'étaient égarés de leur chemin, où on demandait à chaque église de voir, s'il vous plaît, revenez à votre premier amour. Et nous, avec l'église de Saint-Henri, oui, nous avons ça à cœur, et nous avons dit que au niveau du comité de direction de notre église, de voir comment nous allons focaliser nos prédications pour que pendant une année, nous puissions parler réellement de notre relation avec Dieu et de notre relation avec les autres. Et ceci pour le faire, nous avions choisi un livre, l'Ésaïe 58. Quand on voit comment ce livre est écrit, vraiment, ça correspond bien à ce que nous prions. Parce que c'est le chapitre de 58 qui a trois parties bien distinctes, répondait très facilement à nos objectifs de voir que il y a la première partie de ce chapitre qui parlait de notre relation avec Dieu, et la deuxième partie qui parlait de la relation avec les autres. Mais il y a aussi la dernière partie de ce livre qui parlait de des avantages, des bénéfices d'aimer les autres. C'est intéressant quand même de voir, de se dire que Quand Jésus nous dit qu'il y a deux commandements, principaux commandements, le premier c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être, de toute ton intelligence. Et le deuxième commandement, d'aimer son prochain comme soi-même. Oui, si on ne fait pas attention, on se dit, oui, ça va. C'est sur des commandements qu'il a dit, ça me suffit. Je vais le faire. Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est que non seulement quand nous aimons nos prochains en profitent, mais nous en profitons. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui, de voir que quels bénéfices avons-nous à faire du bien autour de nous, à faire du bien pour les autres. Et c'est ça que nous allons voir. Pour le voir, nous verrons ce que... Donc, je vous demande d'ouvrir vos Bibles, Ésaïe 58. Et aujourd'hui, nous allons voir que on ne va pas lire tout le chapitre, mais si on regarde le verset 6 et 7, verset 6 et 7 de 58, le verset 6 dit ceci: Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça, tout ça? C'est parce que les gens, dans la première partie que nous avons lue, les gens commençaient pas à se lamenter, mais se disaient, moi je prie, moi je fais le jeûne et je ne vois pas de bénéfice de ce que je suis en train de faire. Mais Dieu ici vient nous dire ceci, vient nous dire que jeûner, ce n'est pas seulement l'abstinence. Jeûner, ce n'est pas seulement de manger ou de boire. Jeûner, c'est autre chose. Jeûner, c'est, bien sûr, il faut mettre de côté ce qui nous fait plaisir, entre autres repas, mais plus dans le jeûne, nous avons l'occasion, l'opportunité de regarder autour de nous, de regarder autour de nous, de regarder notre voisin, notre frère, pour pouvoir faire quelque chose pour lui. Parce que la parole de Dieu nous dit que les deux commandements, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, ce sont des grands commandements, mais qui se complètent. Il n'y a pas l'un sans l'autre. La Bible nous dit que tu ne peux pas prétendre m'aimer en tant que Dieu lorsque tu détestes ton frère, lorsque tu détestes ton voisin. Et ici, verset 6, ça nous montre en fait ce que Dieu lui-même dit, oui, vous jeûnez. Mais le jeûne que je veux, ce n'est pas seulement de ne pas manger, de ne pas boire, mais c'est surtout ce que tu fais pour l'autre. Et ce que tu fais pour l'autre, la Bible nous le dit ici, c'est la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce que la Bible nous dit ici, donc c'est ceci, c'est de détache les chaînes de ta méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les orphelins, les opprimés. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Donne un habit à une personne qui ne l'a pas et ne te détourne pas de ton semblable. Ça, c'est ce que Dieu dit lui-même. Parce que quand nous lisons ce chapitre, à la fin, Dieu signe le chapitre. Il dit, c'est moi-même qui le dis. Donc, ça veut dire que c'est authentique. C'est pour montrer que dans le jeûne, dans la prière, c'est bien de se confier à Dieu, mais c'est très important aussi de regarder à côté et de voir ce que tu peux faire pour quelqu'un qui est dans le besoin. La Bible nous dit que nous avons tout reçu gratuitement et nous devons partager ce que nous avons reçu avec d'autres. Et dans les autres présentations qu'on a faites au cours de l'année, nous avons vu comment... Pourquoi est-ce qu'on doit aimer son prochain et ou comment on doit le faire? En fait, ce n'est pas ça, parce que nous avons déjà vu, je ne vais pas me présenter sur ça. Ce que je vais montrer tout simplement, c'est que en faisant du bien pour notre prochain, nous avons avantage à le faire. Nous avons avantage à le faire parce que en faisant du bien pour le prochain, nous allons voir qu'il y a des avantages, plutôt des bénéfices que nous avons dans l'immédiat, dans à court terme et même à la fin, ça veut dire à la fin de notre vie, cette terre, au jour donc du jugement, au dernier jugement. Je commencerai par les avantages que nous pouvons avoir dans le court terme. Dans le court terme, quand on voit, à court terme, l'aide aux autres peut être motivée par des sentiments comme altruisme, comme compassion, comme reconnaissance sociale ou comme valeur sociale. En fait, vous avez tous fait cette expérience. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est mendiant, il vous demande des pièces ou des petites choses. Pour lui, ces pièces, c'est beaucoup. Pour toi, c'est rien. Mais malgré ça, vous n'en donnez rien, alors que vous en avez dans la poche. Ça, c'est la première chose. Et comparé à ça, à certaines personnes aussi qui travaillent dans la vie communautaire. Il y a des personnes, comme on appelle ici, des volontaires, qui vont travailler dans la vie communautaire, qui vont aider les gens. Je crois que Pasteur Philippe Bénécole, en a l'expérience, c'est parce qu'au début, il travaillait dans son domaine. Donc, ça veut dire de se lever le matin, d'aller dans la rue et d'aider n'importe quelle personne qui passe, parce que tu vois qu'il est dans le besoin. Et c'est ça qu'on appelle l'altruisme, ça veut dire cette volonté de faire quelque chose, non pas pour gagner de l'argent, non pas pour gagner, mais parce que tu sens en toi qu'il y a une force qui te pousse à aider quelqu'un d'autre et qui est dans le besoin. Et ça peut être aussi l'empathie. Empathie, c'est quoi? Empathie, c'est ce sentiment que tu as quand tu vois quelqu'un qui est mendiant, quand tu vois quelqu'un qui est nu pendant l'hiver, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, quelqu'un qui, pendant l'hiver, n'a même pas de chemise, alors qu'il doit avoir un manteau, et que tu sens que ça te fait mal à toi, et que tu te mets à sa place, ça veut dire que toi, tu as de l'empathie pour lui, et tu vas faire quelque chose. Mais est-ce que ceci est donné à tout le monde? Non. Il y a des personnes qui passent et voient des gens comme ça et disent, bah, tu n'as qu'à travailler. Mes amis, il y a beaucoup de personnes qui sont ici des sans-logis, sans domicile fixe, qui voudraient avoir du travail, mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas de travail. Tous les vagabonds qu'on voit dans la vie ne sont pas nécessairement des qui est qualificatif. Ce n'est pas la paresse, c'est parce que n'importe quelle personne peut être dans la situation de détresse à cause de la vie, à cause des difficultés qu'on rencontre dans la vie. Je suivais un jour dans une émission à la télévision au niveau des États-Unis, de voir que des gens qui racontent comment ils se sont trouvés dans la rue. Nous sommes dans une société où nous dépendons du travail que nous faisons. Vous pouvez être dans une grosse boîte où travaillent 5 000 personnes et le lendemain, vous avez une pancarte qui vous dit que l'usine ou la société a fermé parce que elle est tombée en faillite. Vous avez 5 000 personnes qui sont dehors. Et nous sommes dans une société de consommation où, vous le savez tous, où nous avons tous des dettes à gauche et à droite, dettes pour l'appartement, dettes pour la voiture, dettes pour la télévision, dettes pour le matériel qu'on a dans la maison. Et quand vous êtes en chômage, impossible de payer. Ça veut dire que vous sortez de votre appartement et là, vous allez dans la rue. Donc, les gens qui sont dans la rue ne sont pas seulement des vagabonds, ne sont pas seulement des drogués, ne sont pas seulement des gens qui sont irréguliers, ils sont là parce que la nature humaine, ou parce que le sort, parce que le sort humain peut le faire. Le jour où tu n'auras pas compris que toi aussi, tu peux te retrouver un jour dans cette situation, tu vas passer dans la rue et tu vas dire, oh, je n'aime pas ce quartier parce qu'il y a trop de ces drogués-là, de ces fainéants qui ne veulent pas travailler. Ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il faut toujours le garder à côté de toi et voir ce que tu peux faire pour ton frère qui est en train de galérer dans la zone. Et je parlais donc davantage. Donc, le premier avantage, c'est moi-même. Moi-même, quand je donne quelque chose, j'en tire profit. L'autre sentiment que je voudrais partager avec vous, c'est quand quelqu'un vous demande une aumône et que vous donnez quelque chose, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez de la tristesse? Non. Vous ressentez de la joie. Et surtout quand cette personne dit merci. Et vous voyez comment il dit, vous voyez que ce sont déjà vraiment, il devient très gai. Avant, il était comme ça, mais quand vous donnez quelque chose, et puis vous voyez qu'il change. Et là, vous avez du plaisir à le faire. Et quand vous voyez ça, en fait, ça vous incite à le faire pour d'autres personnes que vous allez avoir. Mais vous allez me dire que on n'a pas avoir d'argent pour donner à n'importe quel mendiant. Ce n'est pas ça que je vous demande. Ce que la Bible vous dit, c'est de savoir que ce que vous avez, en fait, ne vous appartient pas. Ce que vous avez, vous a été prêté par Dieu. La Bible nous le dit. Qu'est-ce que vous avez en vous ou avec vous que vous n'avez pas reçu? Ce n'est pas ma parole. C'est la Bible qui me dit ça. Ça veut dire que Dieu m'a donné, Dieu t'a donné, Dieu vous a donné quelque chose. Vous aussi, vous avez le devoir. Ce n'est pas le choix. Vous avez le devoir de faire quelque chose pour les autres. Je vais aller assez vite. Et l'aide aux autres peut nous procurer de multiples bienfaits. Ça peut être une satisfaction personnelle, je viens de le dire. Un plaisir de partager, renforcer les liens sociaux, favoriser notre développement personnel et contribuer à notre bonheur global. Moi, je suis quelquefois étonné de voir certaines personnes regarder ce qui se passe quand il y a des catastrophes naturelles, inondations, incendies et autre chose. Vous voyez tout de suite des gens qui courent de partout, des bénévoles qui viennent, qui ne connaissent pas les gens qui sont morts, mais qui ont vraiment quelque chose. Une force en elle-même qui les pousse à aller faire quelque chose. Ils amènent, oui, des habits, ils amènent de la nourriture, ils sont là, ils vont donner les premiers soins. C'est ça que Dieu veut. C'est ça Dieu que chaque personne, spécialement chaque chrétien, puisse avoir pour avoir ce sentiment qui le pousse à faire quelque chose pour aider son semblable. Bon, je suis sûr que ces personnes, en tout cas, quand ils font ça, ils ont beaucoup de joie à le faire. Quand ils voient qu'ils donnent à manger, donnent un habit, ils sont vraiment très contents de le faire. Donc, ça, c'était un profit. Donc, aider son profit, ça nous est avantageux. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les besoins immédiats qu'on fait dès que nous faisons quelque chose pour ces personnes. Mais nous avons aussi des bénéfices aussi que je qualifie de bénéfices à moyen terme. Et ces bénéfices à moyen terme, ça veut dire des bénéfices que nous avons tout au long de notre vie avant la fin sur cette terre. Parce que notre vie sur cette terre a un temps. Et bien, le jour où nous allons mourir, ça sera fini. On ne pourra plus rien faire. Mais avant de mourir, après de maintenant, vous avez beaucoup de choses à faire. Et quand vous faites quelque chose, maintenant c'est Dieu qui vous dit ce que vous pouvez avoir comme bénéfice. Et nous le voyons au verset, chapitre, toujours Ésaïe 58, versets 8 à 13. Voilà. Et il se dit ceci, si tu aimes ton prochain comme Dieu le commande, et j'essaie de résumer ce qui est écrit dans la Bible, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et il répondra à ton appel. Tu vas crier et il dira, mon voici. C'est l'Éternel qui le dit. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il lui redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure des chemins, qui rend le pays habitable. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir que, oui, dans ma vie, oui, tant que je peux encore faire quelque chose pour mon voisin, je dois le faire. Je dois le faire, non seulement pour l'intérêt de celui qui reçoit mon service, mon aide, mais aussi pour moi, parce que Dieu m'a béni en conséquence de ce que je suis en train de faire pour mon voisin. Et nous verrons plus tard que mon voisin, c'est qui? Le voisin, c'est la personne que je rencontre. Ce n'est pas nécessairement mon frère, ma soeur, ce n'est pas mon épouse, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mon pasteur, ce n'est pas quelqu'un que je connais. Mon voisin, c'est toute personne que je rencontre et qui est dans cette situation. Et quand la Bible nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, il va même très loin. Il va même très loin parce que dans mon prochain, il inclut aussi mon ennemi. Hein? Parce que la Bible aussi dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et aussi bénissez ceux qui vous persécutent. Donc ça veut dire que je peux avoir un prétexte de dire que oh, celui-là, c'est mon ennemi, je ne peux rien faire. Je suis content que le pasteur Philippe nous demande de prier pour son ancien bailleur. Parce que la personne, quand vous haïssez celui qui vous haït, en fait, vous n'êtes pas plus mieux que lui, vous êtes comme lui. Hein? Et pour Dieu, hein, il faut que vous puissiez montrer votre cachet de chrétien. Et la Bible dit ceci. Être chrétien, ce n'est pas un nom. Être chrétien, c'est un comportement. Être chrétien, ça veut dire appartenir à Christ. Et être chrétien, il y a le seul qualificatif qui qualifie un bon chrétien, c'est l'amour. Et Paul le dit aux Corinthiens, je crois que le Corinthien peut-être 13, je ne m'en souviens plus, aux Corinthiens, il dit ceci, quoi que vous fassiez, vous pouvez même avoir des talents, vous pouvez déplacer les montagnes, vous pouvez connaître beaucoup de langues, vous pouvez guérir les malades, mais sans amour, tout ceci c'est zéro. Ça ne sert à rien. Vous pouvez déplacer les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des magiciens qui peuvent faire des choses pareilles. Mais si tu ne le fais pas, si tu le fais, en fait, mais ce qu'il te faut, c'est l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les talents que tu as, ça veut dire que dans les moyens que tu as, ça veut dire que dans les richesses que tu as, ça veut dire que dans les possibilités que tu as, si tu n'as pas d'amour pour partager avec les autres, pour Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous pouvez dire, je suis riche, oui, j'ai travaillé, oui. Mais il y a d'autres qui travaillent mieux, plus que toi, mais tu n'as pas ce que tu as. Il faut dire plutôt, Dieu m'a donné ça. Ce que tu as, tu l'as reçu, il faut partager. Bon, donc ça, ce sont les avantages que j'ai essayé de résumer à court terme. Ça veut dire à partir de ce que tu peux faire jusque au jour du dernier jugement où tu vas te retrouver devant Dieu, devant Jésus-Christ. Et nous allons voir cela. C'est des bénéfices à long terme. Je le dis à long terme, ça veut dire que ce sont les termes que j'ai, enfin, pour essayer de faire ma présentation, je voudrais les classer pour que nous puissions voir qu'il y a des bénéfices immédiats, comme le plaisir dont j'ai fait allusion. Il y a des bénéfices à court terme, mais le plus important, et c'est ça que je voudrais que nous disions, le plus important, Justin, est-ce que tu peux m'aider à lire le Matthieu 25, 31 et 46? Matthieu 25, verset 31 jusqu'à 46.
Je lis la parole de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen.
Ici, nous parlons de ce qui va se passer au jugement dernier. Nous savons tous, nous sommes chrétiens, nous savons qu'un jour, Jésus sera de retour. Et quand il sera de retour, chacun répondra à ses actes, de ses actes. Et ici, quand nous parlons de aimer notre prochain comme nous-mêmes, quand nous parlons d'aimer notre... aider d'autres personnes. En fait, vous voyez qu'il y a un parallélisme entre ce que Jésus dit ici dans le Nouveau Testament et ce que nous avons vu, ce que nous avons vu de Isaïe. C'est la même chose. Pour montrer que en fait, la Bible est une complémentarité de la Bible. Mais j'aurais aimé que tout chrétien le tienne par cœur ce paragraphe. Si vous connaissez ça, je crois que nous pourrions nous comporter autrement. De savoir que, quoi que nous fassions, nous allons répondre à nos actes. Et chaque fois que je vois ça, je vois qu'il y a le jugement dernier, il y a Jésus qui est là, parce que c'est de lui qu'on parle, et tu as son livre, où c'est tous les noms de cela-là, et chacun. Il va dire, vous pouvez voir ses actes. Et il y a les méchants. Mais dans la Bible, on parle des brebis et des boucs, des chèvres. En tout cas, il y a les bons et les méchants. Et les bons, il va les mettre à sa droite et les méchants à sa gauche. Et il va dire, les bons, ça veut dire ceux qui ont fait ce qu'il vient de dire. Et quand vous voyez les critères d'évaluation de Jésus, il dit, j'avais faim, on m'a donné à manger. J'avais soif, on m'a donné à boire. J'étais nu, on m'a donné de quoi m'habiller. J'étais dans le froid, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais sans domicile fixe, et vous m'avez accueilli chez vous. Ce sont les besoins qu'on appelle ce sont les besoins primaires. De savoir que toute personne qui ne mange pas elle-même, se ne voit pas, ne peut pas vivre, il doit être logé, il doit être protégé. Donc, ça veut dire que si tu connais ça, tu connais ça, vas faire attention à ta vie. Et c'est ça qui est demandé à chaque chrétien, aux chrétiens de savoir. Si réellement tu sais qu'à la fin de cette vie terrestre, il y a une autre vie, ce que nous appelons la vie éternelle. Fais attention. Fais attention parce que tu as encore la possibilité de le faire. Tu as encore la possibilité de te corriger. Ce que tu n'as pas fait jusqu'à maintenant, corrige-toi. Vois ton prochain comme toi-même. Quand tu dis aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire que ce que tu veux qu'on te fasse, tu dois le faire aussi à ton prochain. Si tu veux, tu vois que tu as besoin de manger, ton prochain a aussi besoin de manger. Si tu as besoin de voir un habit, ton prochain a besoin aussi de s'habiller. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi de ne pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Parce que dans Ésaïe 58, nous avons vu que Dieu nous demande de ne pas maltraiter les autres, qu'ils soient nos employés, qu'ils soient nos subalternes, qu'ils soient quoi d'autre. Donc, chers amis, et cette réflexion d'aujourd'hui, ça sert quoi? Ça sert à nous, à ce que nous puissions nous voir, nous, en tant que chrétiens, de voir que nous avons cette responsabilité. Pourquoi est-ce que nous devons aimer notre proche comme nous-mêmes? Parce que c'est un commandement. Et qu'est-ce que c'est un commandement? Un commandement, c'est une loi. Et une loi, c'est quoi? Ça veut dire une obligation. Quand c'est une obligation, on ne te demande pas si tu as du temps, si tu as des moyens, aime ton prochain. Non. On te dit aime. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que c'est une loi, c'est une obligation que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, le jour du jugement, vous avez vu ce qui va se passer. Tu seras à gauche. Et le sort de ceux qui seront à gauche de Jésus, c'est le feu éternel. Donc, ceci, cette présentation, cette prédication, ça concerne tout le monde. Et faire du bien, c'est important pour ceux qui reçoivent nos services, mais c'est encore plus important pour nous. Parce que nous ne travaillons pas pour le plaisir de ce monde. Nous ne travaillons pas pour le bénéfice de ce monde. Nous travaillons, nous regardons très loin. Nous regardons le jour du jugement dernier de voir est-ce que réellement je serai à droite de Jésus ou à gauche. Et quand tu penses à ça veut dire que tu vas faire un effort. Ne me dites pas, est-ce que ça, ce n'est pas trop théorique ce que tu es en train de faire. Non, ce n'est pas théorique. Jésus ne vous demande pas de faire l'impossible. Jésus vous demande d'utiliser les moyens dont tu disposes. Et hier, dans la prière qu'on a faite hier, hier soir, après le pasteur Philippe, et je crois qu'il en a fait allusion ce matin, dans le livre de Michée, en fait, on ne parle pas de quantité. Dieu n'est pas intéressé par la quantité que nous faisons. Ce n'est pas le nombre de locaux, c'est le nombre de francs que je cherche. Aussi, dans l'aide que nous donnons aux autres, ce n'est pas parce que tu as donné 1 million à quelqu'un que tu iras dans la vie éternelle. Ce n'est pas ça. L'amour pour le prochain, pour notre prochain, c'est un processus, c'est un train de vie, c'est une conception de vie qui te met au centre d'une communauté et qui te dit que tu es obligé de regarder à côté et tu fais ce que tu fais. Tu fais un effort pour aider quelqu'un dans la mesure de tes moyens. Pas beaucoup de choses qui te dépassent, mais il y a des choses que tu dois faire selon les moyens dont on dispose. Et c'est ça le message d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs autour de nous et de voir ce que nous pouvons faire pour les autres. Parce qu'en le faisant, nous le faisons aussi pour nous. Non seulement pour nous, nous le faisons pour Jésus. C'est ça qui est intéressant. Quand tu dis, j'avais soif, vous m'avez donné à manger, j'ai été saoulé, vous m'avez logé, j'étais dans le besoin, vous l'avez blessé, tout ça. Les gens vont dire, non, non, Jésus, on ne t'a jamais vu. Mais dit, non. Chaque fois que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi, Jésus. Que vous l'avez fait. Et les méchants vont dire aussi la même chose. Non, non. Moi, j'ai fait ça. En tout cas, j'ai donné à manger aux gens. Je sais. Mais je ne t'ai pas vu, toi, Jésus. Non, non, la même chose. Chaque fois que tu n'as pas fait ça, et le Père, toi, tu l'as fait. Tu n'as pas fait à l'un de ces plus petits, ces malheureux, ces enfants vagabonds, ces vieillards qui m'ont dit. Chaque fois qu'ils attendaient la main tu n'as pas aidé, c'est à moi, Jésus, que tu l'as fait. Donc, si tu as maltraité Jésus, alors, quelle punition est-ce que tu vas avoir? C'est lui maintenant le juge. Hein? Avant, il était ici avec nous en tant que Dieu, mais là, ça va être le juge. Et le juge a un bâton. Le juge, donc, il va nous condamner. Pour terminer, en fait, je voudrais dire que l'homme moissonne ce qu'il sème. Ça veut dire que ce que nous allons recevoir à la fin de notre vie, au jour du dernier, c'est en fonction de ce que nous aurons fait. Ça veut dire ce que nous aurons fait et avec les autres. Et vous avez vu, ce que nous devons faire, c'est de faire du bien. Faire du bien à notre voisin dès que nous pouvons. Celui qui sème pour sa chair récoltera de la chair la destruction. En fait, celui qui fait qui sème pour le plaisir de son monde, en fait, tout ça, ce que nous avons dans ce monde va prendre fin et va se, lui, la personne, en fait, ne va rien récolter parce que ce qui est de la chair va se détruire. Nous ne nous lassons pas de faire le bien autour de nous. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, en commençant par nos frères et nos sœurs dans la foi. Ça, c'est très important de se dire, attention, le temps que nous avons sur terre a une fin. L'important, c'est de nous rendre compte, d'éveiller notre conscience que son temps est limité. Et essayons de faire le bien tant que nous le pouvons. Nous sommes en devant. Tant que nous parlons, ça veut dire que nous existons. Si nous existons encore, nous faisons quelque chose. Si on ne le fait pas, il y aura un moment où ça sera impossible de le faire. Et à ce moment-là, c'est le jugement dernier. Et nous avons vu les sanctions que nous allons avoir. Voilà. Donc, c'est ça la leçon d'aujourd'hui, de dire. C'est maintenant au moment ou jamais, si on n'a pas encore fait, de commencer à le faire, de faire du bien autour de nous, pour que, en faisant du bien pour mon voisin, je fais du bien pour Jésus et je l'ai une récompense, je l'ai la vie éternelle à côté de lui, hein, parce que j'ai fait ce que vous voulez que je fasse. C'est ça que je vous demande de faire, mes amis. De penser, de penser. Vous allez me dire que vous le faites. Oui, d'accord. Mais faites encore mieux par rapport à ce que vous faites. OK. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ce message. Merci de nous montrer que, oui, que tu nous aimes, mais que nous aussi, nous aimons, devons aussi aimer les autres, aimer nos voisins, aimer nos proches comme nous-mêmes, Seigneur. Mais plus que ça, tu me demandes d'aimer nos prochains comme toi tu nous as aimés. Merci Seigneur de nous montrer que oui, nous sommes dans un monde qui va prendre fin un jour et que tout ce que nous avons, c'est ce que tu nous as donné et de partager avec les autres parce que nous sommes tous tes enfants. Oui, Seigneur, je te demande, nous te prions pour que tu puisses nous aider, nous aider, que le Saint-Esprit puisse nous visiter et nous donner les moyens et bien nos consciences pour que nous puissions faire ce que tu nous demandes, ça veut dire aimer notre prochain comme nous-mêmes. Merci Seigneur, nous avons prié à notre Saint-Fils Jésus-Christ. Amen.